vous invite à ouvrir votre Bible dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. Donc le chapitre 2 a été bien récité ce matin. Je vous encourage à l'apprendre, à le lire et le relire. Souvent, il suffit de lire et de relire, et des fois, ça reste. Donc, c'est la parole de Dieu, et nous allons lire donc le chapitre 4, le chapitre 2. Alors, les versets qui vont nous intéresser ce matin sont les versets 9 et le verset 10, mais nous allons lire à partir du au chapitre 2 de 1 Pierre, à partir du verset 4. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4. Lisons donc la parole de Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréable à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Verset 9, « Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé à son admirable lumière. » Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et nous te prions que tu nous diriges par ton esprit quand nous nous approchons de ta parole, que tu illumines nos cœurs afin que nous saisissions les choses qui viennent de toi pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Amen. Voilà, donc je vous rappelle, et vous devez avoir toujours cela dans l'esprit, que Pierre écrit à des chrétiens, chapitre 1, verset 1, qui sont dispersés, étrangers, dispersés dans plusieurs régions, l'Asie mineure, le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Ce sont des personnes qui souffrent aussi beaucoup de manières. On le voit surtout dans les exhortations qui vont suivre à partir du verset 12 du chapitre 2. Et l'épître est pour les encourager vraiment à marcher, à tenir ferme dans la souffrance. Et ce que l'apôtre Pierre fait, c'est qu'il les encourage d'abord en leur manifestant ce qu'ils sont. Rappelez-vous cela, en Jésus-Christ. Comment ils ont été choisis par Dieu. Quelle miséricorde Dieu leur a fait, le salut qui leur a été accordé, l'espérance qui leur est donnée en Jésus-Christ, la joie qui est la leur, la grandeur du salut dans lequel ils ont mis leur confiance, qui leur a été prêché. Et puis, avec tout cela, il leur dit comment ils doivent vivre dans une vie de sainteté, de crainte. On avait considéré ces choses d'amour fraternel à la fin du chapitre 1. Et puis du chapitre 2, au début du chapitre 2, comment ils doivent soupirer après la parole, comme le lait, comme le nouveau-né soupire après le lait, et bien qu'ils doivent aussi être attirés, attachés à cette parole de Dieu. Au verset 4 et jusqu'au verset 8, nous avions considéré qu'à l'apôtre Pierre, en citant beaucoup de passages de l'Ancien Testament, établissait le fondement, rappelait à ces chrétiens sur quel fondement ils ont bâti leur foi et bâti Jésus-Christ, la pierre angulaire, qui est rejetée, certes par les hommes, mais qui est une pierre qui, lorsqu'on s'appuie sur elle, eh bien, ne laisse point du tout de confusion. Il dit au verset 7, « L'honneur est pour vous qui croyez. Ceux qui croient ne sont pas confus. Ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ ne sont pas confus, même si les choses sont difficiles autour. » Et il dit, « Ceux qui ne croient pas, par contre, pour ceux qui ne croient pas, eh bien, ils se heurtent à cette pierre parce qu'ils n'ont pas cru. » Verset 8, « Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru. » Il dit même, c'est à cela qu'ils sont destinés. Ils sont destinés à trébucher parce qu'ils ne croient pas dans la parole de Dieu. Mais vous, dit Pierre, vous, au contraire. Et il dit, c'est tout à fait autre chose. Il va donner une description ici, non pas du chrétien individuellement, mais de l'Église, on pourrait dire. Enfin, ici, il dit, vous, au contraire, il emploie des mots qui sont des mots singuliers, une race, un sacerdoce, une nation, un peuple, mais ce sont des mots, bien qu'étant des mots, on pourrait dire singuliers, sont des mots qui ont trait à une collectivité. Une race, c'est pas une seule personne, hein, un peuple, un sacerdoce, une nation. Donc on voit bien qu'il parle en termes d'une manière collective, des chrétiens d'une manière collective. Donc on pourrait dire ici que Pierre décrit l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Pierre ici, voilà ce que vous êtes. Hein. Vous êtes l'Église de Dieu. Mais qu'est-ce que l'Église? Il va donner l'identité de cette Église, et puis il va donner sa vocation, et puis aussi son fondement, on pourrait dire, dans ces deux versets qui suivent. Alors nous voulons considérer ce matin, avec ce que Pierre dit ici, ce qu'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Voilà le titre de notre message ce matin. Premièrement, Pierre souligne ici l'identité, on pourrait dire, transcendante de l'Église. L'Église, dit-il, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Il donne aux croyants une vision, on pourrait dire ici, non pas individuel de leur identité, mais une vision collective de leur identité. Ce que vous êtes en tant que croyants réunis, en tant que corps. Pas simplement individuellement, mais en tant que communauté ici. Donc il va donner cette vision-là aux croyants. Donc la description qu'il donne est une description qu'il tire, bien sûr qu'il emprunte beaucoup de l'Ancien Testament. Alors comment Pierre va décrire l'Église? Alors on sait qu'on aime bien s'identifier, savoir que l'on fait partie d'un groupe particulier, on appartient à quelque chose. Hein. Et je crois que dans la vie, on est ainsi fait. Nous sommes des êtres sociaux et on n'aime pas se sentir tout seul. On aime bien savoir qu'on appartient à quelque chose, à un groupe, de différentes sortes. Ici, Pierre parle à ces chrétiens qui sont éparpillés, qui sont dispersés, et il leur fait voir qu'ils sont un peuple, une église. Mais il va définir particulièrement ce qu'est ce peuple, ce qu'est cette église. Il dit, vous êtes une race élue. D'autres traductions disent un peuple choisi. Essayez d'imaginer ces choses, hein. Vous entendez ça pour vous. Mettez-vous à la place de ces croyants, de ces chrétiens qui entendent « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Et essayez de penser à ce que cela peut évoquer. Donc ici, il dit « Vous êtes premièrement une race élue. » Et on retrouve cette notion de race élue, de peuple choisi en Ésaïe 43. Donc regardez Ésaïe 43, verset 20. Chaque chose que Pierre dit ici, il le tire de l'Ancien Testament. Donc on pourrait dire qu'il fait, si vous voulez, il prend le peuple d'Israël en tant que peuple, et il transpose cela pour l'Église de Dieu. Donc ce que le peuple a été, eh bien, c'est comme s'il disait, mais voilà, c'est pareil pour l'Église. Vers Ésaïe 43, versets 20 et 21, il dit, les bêtes des champs me, Dieu dit, les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Donc il est en train de dire ici que ce peuple, c'est le sien et c'est celui qu'il a choisi. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alors, quand on lit l'Ancien Testament, on doit reconnaître qu'il est traversé par cette notion de choix de Dieu. Dieu choisit Abraham. C'est toujours Dieu qui constitue quelque chose, qui a l'initiative de quelque chose. Jamais les hommes qui vont d'eux-mêmes vers lui. Dieu choisit Abraham. C'est pas Abraham qui a choisi Dieu. Et Dieu choisit Isaac et pas Ismaël. À un moment donné, rappelez-vous, même Abraham dit, voyant, ne voyant pas arriver le fils de la promesse, il dit, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu dit non, Dieu choisit Ismaël. Ensuite, d'Ismaël, il choisit Jacob et pas Ésaü. D'accord? Il choisit la descendance de Léa. Rappelez-vous, quand Jacob a aimé, qui c'est que Jacob aimait? Il aimait Rachel, n'est-ce pas? Il a travaillé des années pour avoir Rachel. Et la Bible dit que Léa n'était pas aimée. Mais Dieu choisit Léa et c'est de Léa que naît Judas. D'accord? Et Dieu choisit Judas, et vous connaissez bien l'histoire, si vous connaissez bien l'histoire, vous savez que Judas, ben la tribu de Judas, c'est la tribu dont vient David, et puis bien sûr plus tard, Jésus-Christ. Et Dieu procède toujours, toujours, toujours par choix souverain. D'accord? Il procède toujours par choix souverain. Le peuple de Dieu est un peuple qui est l'objet d'un choix souverain de Dieu. C'est ce qu'on voit quand on lit l'Ancien Testament concernant le peuple d'Israël. Dans Deutéronome chapitre 7 et au verset 6, il est dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. » Donc saint, ça veut dire mis à part, hein, pour l'Éternel ton Dieu. « L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. » Et Dieu choisit en raison de ce qu'il est lui-même, tout simplement. Pas en raison de ce qu'il trouve chez les autres. Et le peuple d'Israël a été choisi, non pas parce que c'était un grand peuple, non pas parce qu'il était plus intelligent qu'un autre, non pas parce qu'il était plus aimable qu'un autre, simplement parce que Dieu l'a aimé. Et Dieu dit, je t'ai choisi parce que je t'aime. Et pourquoi est-ce qu'il l'aimait? Il aime parce qu'il aime. Il aime parce qu'il aime. Il a choisi de l'aimer, il a choisi ce peuple. Et donc l'apôtre Pierre applique, si vous voulez, cela aux chrétiens qui sont dispersés dans l'Asie mineure. Il leur dit, vous êtes de même que le peuple d'Israël a été le peuple choisi par Dieu, objet du choix souverain de Dieu, vous êtes aussi choisi par Dieu. Une race élue ou un peuple choisi. Au contraire, de tous ceux qui rejettent Christ, au verset 8 que nous avons lu, hein, vous au contraire, eh bien, vous appartenez à un groupe spécialement choisi par Dieu. Et donc l'Église, dit-il ici, parce qu'il parle, n'est pas un club dans lequel on vient s'inscrire, hein, mais c'est un peuple que Dieu s'est formé par son choix souverain. Une race élue, une race choisie, un groupe choisi spécifiquement par Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Deuxièmement, il dit que c'est un sacerdoce royal. L'Église est décrite comme une communauté de sacrificateurs, de prêtres rois, parce qu'il dit ici un sacerdoce royal. Et on lit, par exemple, dans Apocalypse 1, verset 6, où il est dit que Christ nous a fait des croyants, rois et sacrificateur. On le chante même dans un cantique. Apocalypse 5, verset 9 à 10, je vous lis cela. Il dit, « Il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc l'Église est une communauté de sacrificateurs, de prêtres et de rois. C'est ce que l'Écriture dit. L'Église est une communauté de prêtres et de rois. Mais qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Et ce quand Pierre dit cela, eh bien, il emprunte ce qui est dit déjà aussi dans l'Ancien Testament, dans Exode au chapitre 19. Regardez Exode chapitre 19 et versets 5 et 6. Exode 19, versets 5 et 6. Exode chapitre 19 et au verset 5 et 6. Il dit maintenant, Exode 19, 5, maintenant si vous écoutez ma voix, donc ça c'est quand Dieu établit sa loi, ça c'est juste avant de donner les 10 commandements, Exode chapitre 20 c'est les 10 commandements, hein. Donc quand le peuple se constitue, Dieu va donner maintenant sa loi et il dit, maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc on voit déjà dans l'Ancien Testament, Dieu parle au peuple par l'intermédiaire de Moïse en disant que ce peuple sera pour lui un royaume de sacrificateurs. Mais c'est une parole qui est adressée donc à tout le peuple dans un contexte où le sacerdoce à cette époque était exercé par une partie bien spécifique du peuple. Tout le peuple n'était pas sacrificateur. Il fallait être de la bonne tribu et de la bonne lignée. Hein. Il fallait être descendant de la tribu de Lévi, descendant d'Aaron, hein, pour être sacrificateur. Et donc tous n'étaient pas sacrificateurs ici. Alors, on ne pouvait pas s'auto-proclamer sacrificateur du tout. Et pourtant, Dieu dit quand même, ici, quand il choisit son peuple, que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a donc dans l'idée de sacrificateur deux choses. D'abord, quand on pense à sacrificateur, je sais pas, on pense à sacrifice souvent, n'est-ce pas? On pense au sacrificateur comme celui qui offrait des sacrifices. Mais quand on lit l'Écriture, on voit qu'il n'y avait pas que les sacrificateurs qui offraient des sacrifices. D'ailleurs, même quand les hommes amenaient des sacrifices au temple pour leurs péchés, ils devaient les sacrifier, les tuer eux-mêmes. Après, le sacrificateur, avec le sang, entrait dans la présence, dans le lieu très saint, pour pouvoir répandre le sang sur l'autel. Donc, le sacrificateur, bien sûr, il offrait sur l'autel le sang du sacrifice, afin d'obtenir le pardon des péchés. D'une part, il devait le faire pour lui-même, et puis ensuite, aussi le faire pour le peuple. Mais ça n'était pas la seule fonction du sacrificateur. Quand on regarde, le sacrificateur aussi pourrait dire que sa fonction ne se résumait pas seulement à offrir des sacrifices, mais il avait vocation à parler aussi au peuple de la part de Dieu. Donc, on pourrait dire qu'il avait une mission dans lequel il devait présenter à Dieu le péché du peuple pour obtenir le pardon, faire le sacrifice pour obtenir le pardon du peuple, mais il avait aussi comme mission de porter au peuple la parole de Dieu. Il était celui qui interprétait la loi de Dieu. Et donc Dieu qualifie sous l'ancienne alliance son peuple, il dit sera un peuple de sacrificateurs. Ils seront des témoins aussi, ce que ça veut dire en fait ici, c'est qu'ils auront pour vocation de porter aussi la parole de Dieu. Le même que le sacrificateur pouvait arriver dans la présence de Dieu et puis ensuite porter la parole de Dieu au peuple, eh bien Dieu voulait déjà que tout le peuple soit des témoins qui partagent sa parole. Dans Ésaïe 43, on trouve cela, il dit « Vous serez mes témoins hein ». De même ce qu'on trouve aussi dans le Nouveau Testament, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc même dans le peuple d'Israël, Dieu voulait que ce peuple soit son représentant, que le peuple entier soit son représentant et son témoin auprès des autres peuples, auprès des autres nations. Et donc, dans ce sens, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Bien sûr, avec la venue de Jésus-Christ, eh bien, de manière plus complète, le croyant et l'Église a pu être un peuple de sacrificateurs. Et donc, Pierre applique cela aux croyants de la Nouvelle Alliance, en qualifiant l'Église, on pourrait dire, de sacerdoce royal. Vous êtes un peuple et une race élue, un sacerdoce royal. L'Église est ce peuple choisi par Dieu et qui constitue une communauté de sacrificateurs qui ont accès directement à Dieu et lui offrent, on l'a vu au chapitre 2, verset 5, et lui offrent des victimes spirituelles. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre humain pour vous approcher de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. On n'a plus besoin d'un prêtre humain. Chaque enfant de Dieu est un sacrificateur qui a accès dans la présence de Dieu. Et chaque fois qu'il témoigne, chaque fois qu'il parle aux autres, il est comme le sacrificateur qui prend la parole de Dieu et qui la présente à celui qui ne la connaît pas. D'accord? Et donc, quelque part, on a un rôle, un ministère de sacrificateur. Et la Bible dit même que les chrétiens sont amenés à régner avec Christ, d'où cette notion de roi sacrificateur ou de sacerdoce royal, qui demeure dans la présence du roi, mais qui aussi, c'est ce qu'Apocalypse dit, il dit, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc il y a cet aspect de règne, mais cet aspect aussi de sacrificateur dans lequel on peut s'approcher directement de Dieu. On n'a pas besoin d'aller à Moïse, on n'a pas besoin d'aller à notre sacrificateur, on peut s'approcher directement de Dieu. Et de même que seul le sacrificateur souverain avait accès dans le lieu très saint, eh bien, par Jésus-Christ, le croyant a maintenant accès directement à Dieu. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « approchez-vous ». Approchons-nous de lui avec assurance. On peut s'approcher de Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'il a inauguré la route nouvelle au travers de sa chair, nous dit la Bible, au travers de son sacrifice. Donc, une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal. Troisièmement, Pierre dit que l'Église est une nation sainte. Et le mot traduit par nation, c'est le mot ethnos qui donne le mot ethnie ici. Donc l'Église est un groupe ethnique, on pourrait dire, et dont la particularité c'est d'être saint, est une sainte ethnie. Et là encore, l'apôtre Pierre cite Exode chapitre 19 verset 6 que nous avons déjà lu. Je vous le relis juste. Il dit car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est ce qu'on lit dans Exode, chapitre 19 et au verset 6. Alors, il ne faut pas comprendre le mot saint comme être sans péché. Pas que vous êtes une nation sans péché. L'Église n'est pas une nation sans péché. Il n'y a qu'à regarder à nous-mêmes pour en être convaincu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une nation qui est mise à part, qui est consacrée exclusivement à Dieu. Et par exemple, dans l'Ancien Testament, les ustensiles du temple devaient être sanctifiés. On peut lire ça. Exode, je vous lis, Exode chapitre 30, il est dit, verset 26-29, « Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, le chandelier et tous les ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, la cuve avec sa base, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. » Ces choses seront très saintes. Ça ne veut pas dire que ces choses seront sans péché. Les ustensiles, c'est des objets inertes, inanimés. Donc ça veut dire que ce sont des choses qui seront exclusivement réservées au service de Dieu. Et donc ce que Pierre dit, c'est que quand il dit que l'Église est une nation sainte, il dit que c'est une ethnie, c'est un groupe ethnique exclusivement réservé au service de Dieu. Donc la communauté des chrétiens est un groupe qui est exclusivement consacré au service de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc quand on pense à l'Église, il faut penser dans ces termes-là. C'est une nation sainte. C'est un groupe qui est mis à part pour Dieu lui-même, choisi par lui, mis à part par Dieu lui-même pour qu'il soit consacré à son service. Et c'est là une caractéristique fondamentale de l'Église. On ne peut pas s'en servir pour faire n'importe quoi. En tant qu'Église, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que la destination est déjà déterminée. Elle est exclusivement réservée pour le service de Dieu. Et puis, dernière chose qu'il dit, vous êtes un peuple acquis. Et quand, encore là, c'est une allusion à Exode 19, chapitre 5, où il dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc, dans Exode 19, Dieu dit que toute la terre est à lui. Toute la terre est à lui. Tout lui appartient réellement. Tout l'univers appartient à Dieu. La terre est à lui, c'est lui qui l'a fait. Le ciel est à lui, c'est lui qui l'a fait. D'accord? Et donc tout lui appartient. Et dans Ézéchiel, on peut même lire que toutes les âmes sont à moi, Dieu dit. Il dit l'âme du Fils et l'âme du Père, l'une et l'autre, sont à moi. Tout lui appartient. Tous, autant que nous sommes dans cette salle, nous appartenons à Dieu. Mais pourquoi est-ce que Pierre dit ici, vous êtes un peuple acquis, c'est-à-dire un peuple, d'autres traductions disent, un peuple qui a été racheté, un peuple qui appartient à Dieu spécifiquement. Tout lui appartient alors. Pourquoi spécifier que l'Église lui appartient particulièrement? Et quand vous lisez Exode 19, Dieu dit, toute la terre est à moi, mais vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Autrement dit, il y a une manière d'appartenir qui est différente ici. Une manière d'appartenir qui est différente. Le peuple d'Israël est à lui d'une manière unique. Et les autres peuples ne sont pas à lui de cette même manière, de la même manière ici. Ça veut dire que Dieu a une relation spécifique, exclusive, avec le peuple d'Israël qu'il n'a pas avec les autres peuples, quand il l'écrit ici. Il dit, par exemple, on l'a lu déjà dans Deutéronome chapitre 6, il dit qu'il a choisi ce peuple pour qu'il... ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre. Vous voyez, donc il y a quelque chose, il y a l'ensemble des choses qui appartiennent à Dieu ici, tout lui appartient, et puis parmi cela, il y a ceux qui lui appartiennent d'une manière vraiment particulière, donc avec lesquels il y a une relation unique qu'il n'a pas avec les autres. Et donc Pierre transpose cela à l'Église sous la Nouvelle Alliance. Il dit, vous êtes un peuple acquis ou libéré ou racheté. Il dit, vous appartenez à Dieu d'une manière spécifique. Pas comme le voisin appartient à Dieu. Pas comme la terre appartient à Dieu. Pas comme tous les autres hommes appartiennent à Dieu. Vous êtes sa possession qu'il s'est acquise, mais par quelque chose de bien spécifique. Okay. C'est ce qu'il est en train de souligner ici. Et c'est ce que Paul dit à Tite, par exemple en Tite 2, verset 4, quand il dit que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Donc on voit que par le sacrifice de Christ, Dieu s'est acquis un peuple spécifique. Il y a quelque chose qu'il a dû accomplir et qui fait que ces personnes-là lui appartiennent d'une manière différente de toutes les autres. Et il dit, en parlant de l'Église, vous êtes, de même qu'Israël avait été ce peuple choisi d'entre tous les peuples, vous êtes ce peuple choisi d'entre tous les autres, en tant qu'Église, en tant que chrétien. Alors qu'est-ce que cela nous dit, chers frères et sœurs? Ça nous dit que l'identité de l'Église de Dieu, ça nous dit de l'identité de l'Église de Dieu, qu'il se l'est acquise par son propre sang, le lit dans Actes chapitre 20. Elle est une race élue, sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Elle est intimement liée à Dieu, parce que c'est Dieu qui a fait toutes ces choses, c'est Dieu qui a choisi, c'est Dieu qui a fait le royaume de sacrificateurs, c'est Dieu qui l'a mise à part en tant que nation sainte, et c'est Dieu qui a tout fait pour se l'acquérir. Et nous vivons une période où ressurgissent beaucoup les identités. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Ou le repli communautaire, le repli ethnique, la couleur de peau, sur le genre, l'histoire passée. Et toutes ces choses semblent devenir de plus en plus importantes. N'est-ce pas? Dernièrement, on parle de réunions racisées où certains peuvent participer, ou pour pouvoir prendre la parole, il faut être de la bonne couleur, du bon sexe, etc., de la bonne histoire. Et on est en train de se reconstituer en petits clans identitaires qui excluent, bien sûr, les autres. Mais l'Écriture clame ici fort et haut que tous ceux qui sont en Jésus-Christ vivent une nouvelle réalité ethnique. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ vivent une nouvelle réalité ethnique. Et cette réalité ethnique, cette réalité de chrétien en tant qu'Église, transcende, se place bien au-dessus, surpasse tout ce que les hommes peuvent ériger en barrière. Non pas que l'Évangile efface, hein, les différences, les catégories, et nous sommes tous différents ici, hein, enfin, il y a beaucoup, il y en a qui sont de certains groupes ethniques, d'autres de nôtres, une certaine couleur de peau, d'autres une autre, etc. Mais ce que l'on voit ici, c'est que Pierre ne dit pas, vous, au contraire, vous êtes de telle couleur, vous êtes de telle histoire, vous êtes, non, il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Tout cela vient de Dieu, et il dit que tout cela, ça, c'est votre identité. Votre identité fondamentale, qui transcende tout ce que vous pouvez être par ailleurs. C'est au-dessus de tout ce que vous pouvez être par ailleurs. Alors, l'Évangile, bien sûr, elle n'efface pas les différences, mais l'Évangile transcende toutes les différences que nous pouvons avoir. En considérant son identité en tant que race élue, que sacerdoce royal, que nation sainte, que peuple acquis, le croyant ne se laisse pas prendre au piège de l'idolâtrie avec sa couleur de peau, avec son sexe, avec son histoire socio-économique. Je suis descendant d'esclaves, donc voilà, il faut qu'on se rassemble pour... Non, ces choses sont vraies, elles existent, on ne les nie pas, mais elles ne constituent pas l'identité fondamentale du croyant. Le croyant expérimente ce que le Saint-Esprit dit en Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Paul ne dit pas que l'Évangile efface le fait d'être homme ou femme, il ne dit pas ça. Il ne dit pas que l'Évangile efface le fait d'être juif ou grec, ou que l'Évangile efface le fait d'être esclave ou libre. Il dit que l'Évangile se place au-dessus de ces différences-là. Et quand, en tant que chrétien, on se considère, c'est sur ce standard-là qu'on doit, c'est depuis ce standard qu'on doit regarder les choses. Pas depuis ce que l'on est dans nos particularités, mais depuis ce que l'on est en Jésus-Christ. Et c'est cela qui est la chose la plus importante. Christ n'abolit aucune différence culturelle, mais Christ place l'identité de l'Église au-dessus de toutes les différences culturelles. Et ce qui doit être visible quand on regarde l'Église, ce n'est pas... Si on voit sa diversité, c'est pour louer ce que Dieu fait. Mais quand on regarde l'Église, ce n'est pas pour voir des différences, c'est pour voir l'unité qui est accomplie en Jésus-Christ. Ce qui doit nous unir, ce n'est pas le fait que nous venons du même pays, ou que nous parlons une même langue, ou que nous avons une même histoire, ou que nous avons une même couleur de peau. Mais ce qui doit nous unir, c'est le fait que nous sommes un en Christ, une race élue, sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. On ne doit pas rechercher à vivre l'Évangile en mettant d'abord les spécificités ethniques ou sociales au premier rang, mais en considérant vraiment ce que Christ a accompli, l'unité qu'il a acquise par son sacrifice à la croix. Je vous cite juste un auteur dans un livre qui s'intitule L'Église, s'appelle Edmund Cloney, il dit ceci, il dit que la véritable puissance d'attraction de l'Église transcende les enclaves culturelles de la société contemporaine et dissout dans l'amour de Christ les haines d'un monde perdu. Aujourd'hui, on voit le monde qui fait ressurgir des haines, celui-ci contre celui-là. Si tu es blanc, tu n'as pas le droit de prendre la parole pour parler de mon histoire, etc. Parce que le chrétien, ça n'a rien à voir avec l'Évangile. L'Évangile dissout dans l'amour toute la haine que les différences culturelles, socio-économiques peuvent engendrer. Et ce que Pierre dit à ses croyants ici est vraiment d'un grand réconfort parce qu'il dit, vous, voilà ce que vous êtes. Vous êtes fondamentalement, ça c'est votre identité. Si vous cherchez qui vous êtes, vous dites pas je suis martiniquais, je suis indien, je suis japonais, je suis haïtien. Non, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. C'est ainsi que le chrétien doit se définir, même s'il ne perdra jamais sa couleur de peau. Et s'il ne perdra jamais, même s'il ne renie jamais, on ne demande pas de renier d'où on vient. Mais on demande de savoir qui on est maintenant, quand on a accepté Jésus-Christ. Ça, c'est l'identité de l'Église. Et puis, deuxièmement, je voudrais souligner la vocation principale de l'Église. Donc, l'identité transcendante de l'Église, mais deuxièmement, la vocation principale de l'Église. L'apôtre Pierre dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous pouvons avoir, chers frères et sœurs, des idées plus ou moins différentes sur la mission, sur la vocation de l'Église. Si je vous demandais, quelle est la mission, quelle est la vocation de l'Église? Qu'est-ce qu'une Église doit faire? Fondamentalement, peut-être que vous auriez beaucoup d'idées. On devrait faire, des choses pour aider dans le monde, impliquer plus dans la vie associative de la ville dans laquelle on est. Il y a beaucoup d'églises qui font beaucoup de choses. Et bien sûr, on n'est pas contre, c'est bien la plupart du temps. Mais il est toujours important, pour ne pas se perdre, de s'attacher à ce qui est essentiel et fondamental, et puis de partir toujours de là. Et il faut que toujours ce que l'on va faire puisse servir ce qui est fondamental. Et Pierre dit ici une chose, il dit que, après avoir décrit l'identité même de l'Église, il dit quelle est la fonction, la vocation principale de l'Église. « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Pierre dit que la vocation principale de l'Église, c'est d'annoncer les perfections de Dieu. L'excellence, vertu, c'est le mot excellence. Annoncer l'excellence de Dieu. Voilà la vocation principale de l'Église. Quelqu'un a dit, c'est être le miroir de Dieu.
J'ai bien aimé cette expression. On va refléter le caractère de Dieu. C'est ça la vocation principale, fondamentale de l'Église. Annoncer, c'est-à-dire dire clairement, le mot veut dire clairement, proclamer, et c'est proclamer de manière verbale. C'est pas juste rester là et puis dire, bon, je vais vivre en tant que... Non, c'est avoir quelque chose qui s'entend, dire avec les lèvres, les louanges de Dieu. Et c'est, encore une fois, une citation d'Ésaïe 43 que Pierre fait ici. Je vous lis, Ésaïe 43, 21, il dit, « Le peuple, Dieu dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Il dit ce qu'il fait, il se forme un peuple, il le choisit, il le met à part, il le consacre, c'est sa possession propre, et il dit, voilà ce qu'il va faire, il publiera mes louanges. Et donc, notre vocation en tant que chrétien, en tant qu'église, en tant que corps du Christ, c'est vraiment de célébrer la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on voit quand on lit Éphésiens chapitre 1, que Dieu a choisi un peuple afin de célébrer sa louange. Plusieurs fois, il dit célébrer sa gloire. Tout le premier chapitre de Éphésiens dit cela. Tout ce que Dieu crée, en fait, c'est pour célébrer sa gloire. L'univers, c'est pour célébrer sa gloire. Le psaume 19 dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et le peuple d'Israël est choisi pour publier les louanges de Dieu et faire connaître son nom. C'est pour cela que Dieu l'a choisi. Afin, dit-il en Ésaïe 43, que vous soyez mes témoins, que vous publiez mes louanges. Et dans l'Épître aux Romains, rappelez-vous, l'apôtre Paul qualifie ce que c'est que le péché et que l'impiété. Et il dit que l'impiété, c'est le fait de connaître Dieu, d'avoir connu, et de ne, ou des choses de Dieu, et de ne l'avoir pas glorifié et rendu grâce en tant que tel. Je vous lis ça, il dit, en effet, les perfections invisibles, Romains chapitre 1, verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Les perfections de Dieu se voient, connaissent, et on ne le glorifie pas pour ces choses. Ça c'est l'impiété, dit Dieu. Donc Dieu se choisit un peuple afin que celui-ci manifeste, témoigne, proclame ses louanges. Dieu veut se manifester et se faire connaître à travers son peuple, qui s'est choisi. Et c'est comme ça qu'il a choisi de le faire. Il aurait pu faire autrement. Mais il a choisi de se constituer un peuple et que ce peuple soit son miroir. C'est ainsi qu'il veut que les choses se fassent. Et donc l'Église, dit Pierre, est le moyen par lequel Dieu révèle au monde son excellence. Annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. Et donc le but de l'Église, c'est pas simplement de mettre les croyants à l'abri du danger, du châtiment de Dieu. Le salut, c'est pas juste un vaccin qui va nous immuniser contre la colère de Dieu. Et puis après, je fais ce que je veux. C'est comme ça qu'on fait avec le vaccin. Je prends un vaccin. Comme ça, je peux voyager tranquille. On va pas m'obliger à faire ceci, m'obliger à faire cela. Je peux. Et parfois, on aborde la vie chrétienne comme ça. Et je suis au Seigneur. Maintenant, je peux faire ce que je veux. J'ai pas besoin d'aller. Non, je peux vivre comme je veux. Et je suis en sécurité parce que bon, je sais que Jésus est mon Sauveur. Après, je parle pas. Non, c'est pas du tout. Pierre dit ici que Dieu s'est choisi un peuple afin que ce peuple annonce l'excellence de Dieu. Et il est intéressant de noter à la Pentecôte, n'est-ce pas, lorsque l'Esprit descend sur les apôtres, Jésus, Dieu avait dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Et lorsque l'Esprit descend sur les apôtres, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous vous rappelez la première chose qu'ils font? C'est, ils parlent des... Ils parlent en langue, mais pour dire quoi? Pour parler des merveilles de Dieu. Le peuple qui est là, qui entend, il dit, mais comment les entendons-nous parler dans notre propre langue des merveilles de Dieu? Et lorsque plus tard, Pierre est chez Corneille, et puis qu'il prêche la parole, et que tous, et que le Saint-Esprit descend sur ces hommes, ils se mettent aussi, ces hommes et ces femmes, je pense, ils se mettent aussi à parler en langue, et la Bible dit, et ils glorifiaient Dieu. Ils témoignent des louanges de Dieu. C'est ce que fait l'Évangile quand il vient, l'Esprit de Dieu, quand il vient habiter dans un cœur, ici. Et donc, l'Écriture nous enseigne que l'Église est le moyen par lequel Dieu fait connaître ses merveilles, même aux autorités célestes. Écoutez ça, dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, il est dit, « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Ça me fait penser qu'il y a des choses que même les autorités dans les lieux célestes ne connaissent pas et que Dieu a choisi de leur faire connaître en regardant l'Église. Par l'Église, par ce peuple que Dieu s'est choisi, cette race élue, ce saint sacerdoce royal, cette nation sainte, ce peuple acquis, par le témoignage qu'ils ont, par la louange qu'ils portent à Dieu, ils découvrent, ils apprennent des choses sur Dieu. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut penser qu'aujourd'hui, actuellement, il y a des anges qui regardent, et puis, on avait vu, les anges qui plongent le regard, connaissent pas tout, et qui voient à travers l'Église combien Dieu est magnifique, parce que l'Église reflète dans ses louanges. Donc la vocation de l'Église, c'est de témoigner. Pas de témoigner comment je suis. C'est vrai, c'est bien de dire ce que Dieu a fait pour moi, mais c'est pas ça qui est le plus important. Voici comment j'étais et voici maintenant comment je suis. C'est bien. Mais si on s'arrête que là, il y a des gens qui disent, ben moi aussi, j'étais alcoolique avant, maintenant je suis pas alcoolique, mais je suis pas chrétien. Ah. D'accord? Si on s'arrête que simplement sur un changement qu'il y a eu chez nous, quelque part. Mais il dit que quand on devient, ce changement a eu lieu dans notre vie. Quand on est passé, comme l'apôtre Pierre dit ici, des ténèbres à son admirable lumière, et que l'on confesse cela dans un témoignage qui rend gloire à Dieu, là, il dit, on accomplit vraiment la vocation de l'Église. Donc c'est la volonté de Dieu d'être connu à travers le témoignage de l'Église. Et dans le même chapitre, verset 12, 1 Pierre 2, verset 12, nous lisons, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et ils font quoi après? Ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Pierre ne dit pas, ils remarquent vos bonnes œuvres, ils vont dire, « Ah, ce gars-là, il est bien quand même, hein. Ouais, il s'énerve pas, il est pas mal, ah, c'est quand même pas mal, il a une bonne maîtrise de lui. » C'est pas mal. Il dit non, on doit vivre d'une manière telle que lorsque les œuvres seront remarquées dans notre vie, les gens vont se souvenir, mais ça c'est Dieu qui a permis cela. Et quand Dieu va les visiter, ils vont glorifier Dieu. Mais comment ils vont savoir que c'est Dieu qui a permis cela? C'est parce qu'on aura dit ces choses. C'est parce qu'on aura témoigné de ces choses. Donc la vocation de l'Église, c'est vraiment d'annoncer, de dire, de le faire par le chant, je sais quelqu'un qui dit, quand on le fait par le chant, les autres à côté l'entendent. Pierre et Silas dans la prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent les louanges de Dieu. Et la Bible dit, et les prisonniers les entendaient. On doit pouvoir dire, l'Église chantait les louanges de Dieu. Et les voisins l'entendaient. Et Dieu appelle souvent à cela. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel tous les habitants de la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations, racontez parmi les nations sa gloire, parmi les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et digne de louange, il est redoutable au-dessus, par-dessus tous les dieux. Psaume 96, verset 1 à verset 4. Il arrive que l'on considère la vie chrétienne par ce qu'elle pourrait me rapporter, souvent. Et on pose souvent la question, pourquoi Dieu m'a-t-il sauvé si c'est pour me laisser comme ça, ouais. Sans travail, décent, sans conjoint, sans enfant. Pourtant, je suis Dieu, hein. Mais on n'a pas compris que l'Église, que le fait d'être au Seigneur, on n'est pas quelque chose d'anthropocentrique, on n'est pas sur soi-même, on n'est pas centré sur l'homme, mais on est sauvé. Et quand on est au Seigneur, on devient théocentrique, christocentrique, tout est centré sur Dieu. Dieu nous sauve pour attirer la lumière sur lui, pas sur nous. Pas sur nous. Et en même temps, c'est notre plus grand bien que de chercher à annoncer les vertus de Dieu. Ce n'est pas de. Il y a des gens qui disent ça, c'est de l'égoïsme de la part de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que. Au contraire, hein, c'est une marque d'amour profond parce que la chose. M'approcher de Dieu, disait le psalmiste, c'est mon plus grand bien. M'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Et donc Dieu agit de manière à ce que nous pouvons toujours avoir le plus grand bien. Notre plus grand bien sera lorsqu'on se tourne constamment vers Dieu et lorsque qu'on le fait connaître aussi aux autres. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Il n'y a pas de vie éternelle sans la connaissance de Dieu. Et c'est pour cela que le ministère, la vocation de l'Église, c'est de faire connaître Dieu, de connaître Dieu, bien sûr, et de le faire connaître. Et c'est en connaissant Dieu que l'Église grandit et qu'elle aura la plus grande joie. En se détachant de nous-mêmes, que nous aurons, bien sûr, la plus grande joie. Je termine juste très rapidement, parce que le temps est court, avec le troisième point qui est le fondement ici, on pourrait dire, de l'Église, l'apôtre Pierre dit ici, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Auparavant, il disait, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il dit voilà, il dit que ce peuple, il est constitué de personnes qui sont passées des ténèbres à la lumière. Ça c'est il n'y a pas de commune mesure entre les ténèbres et la lumière, on est d'accord? Où il y a lumière, il n'y a pas ténèbres. Donc il est en train de dire qu'il y a un changement radical qui s'est produit dans la vie de ces personnes. Ils ont été transportés, sortis des ténèbres, qui expriment la puissance du diable, dans le royaume de lumière. Jésus-Christ lui-même étant la lumière du monde. Donc il dit qu'on doit témoigner des vertus de celui qui a produit cela, en se souvenant, dit-il, et il cite le passage de Osée, que vous n'étiez pas un peuple, et maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et il cite Osée, et vous vous rappelez dans cette histoire d'Osée, Dieu dit à Osée d'aller chercher une femme prostituée, de la prendre. Ils ont des enfants, et puis à un moment donné, Dieu donne les noms aux enfants. Il y en a trois, mais il y en a le deuxième, il l'appelle Lo Ruhama, qui veut dire pas miséricorde, ou celle dont on n'a pas pitié. Et puis, le second enfant, il l'appelle Lo Ami, qui veut dire pas mon peuple. C'est quelque chose de prophétique, voilà, il dit, c'est comme s'il dit Dieu déclare Israël, il parle d'Israël ici, pas son peuple. Tu n'es pas mon peuple. Je ne te fais pas miséricorde. C'est une déclaration judiciaire que Dieu fait. Tu n'es pas mon peuple. Et puis plus loin, dans ce passage, quand on lit au chapitre 2, au verset 25, Dieu dit « Je planterai pour moi l'Orushama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Lohami, tu es mon peuple. » Et il répondra « Mon Dieu ». Et Dieu dit, voilà, il va, donc ce peuple qui s'était, peuple qui avait rejeté Dieu suite à sa désobéissance, est déclaré par Dieu, pas mon peuple, ici. Et puis, plus tard, Dieu, sur la seule base de sa miséricorde, pas sur un changement du peuple, dit, je le déclarerai mon peuple, ici. Donc ceux qui n'étaient pas son peuple, il déclare judiciairement mon peuple. Et Pierre dit, Paul aussi finit de la même chose pour parler dans Romains chapitre 9 des juifs et des non-juifs, hein, et pour montrer que juifs et non-juifs sont tous sous l'emprise du péché et que avec la loi ou sans la loi, on est égal et on est égaux devant, ils sont égaux devant Dieu parce qu'ils sont tous péchés, que tous sont privés de la gloire de Dieu. Et Pierre et Paul prennent ce passage pour exprimer que la vérité, que les hommes, initialement, ne sont pas le peuple de Dieu. Et qu'on devient le peuple de Dieu par une déclaration judiciaire de Dieu. C'est lui qui choisit et il dit, pas mon peuple, mon peuple. Et c'est ainsi, c'est pas parce que Israël a eu la loi avant qu'il est devenu le peuple de Dieu, qu'il était plus grand que notre, qu'il est devenu le peuple de Dieu. De ce point de vue, Israël et les païens sont sur le même plan. Ils sont sur le même plan. Et quand Pierre dit cela, il leur rappelle que c'est en vertu de la miséricorde de Dieu que vous êtes devenus le peuple de Dieu. Et c'est en vertu de la miséricorde de Dieu que ceux qui sont dans le corps de Christ, dans l'Église, font partie de l'Église. Sous la nouvelle alliance, tous ceux qui s'approchent de Dieu s'approchent comme n'étant pas son peuple et ne peut se prévaloir de absolument rien du tout parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'il soit juif, qu'il soit non-juif, c'est sur la base de la miséricorde de Dieu qu'ils deviennent membres du peuple de Dieu. On n'est pas membre du peuple parce qu'on a une descendance d'Abraham ou de quiconque. On est membre du peuple de Dieu parce que Dieu choisit et il dit « mon peuple ». Il le fait selon sa miséricorde. Et c'est pour ça que Pierre, plus tôt, il avait dit « béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, etc. » Mais il dit, par sa grande miséricorde. Je termine avec ça. Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, il nous a rendus à la vie. On a lu le verset tout à l'heure, à la fin. Le frère nous a fait lire, lorsque la bonté de Dieu notre Seigneur et son amour pour tous les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Et l'Église existe sur le seul fondement de la miséricorde de Dieu. Son identité, une race élue, sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, sa vocation, annoncer les vertus de celui qui les a fait passer des ténèbres à la lumière. Là, il parle du salut, le fait d'être devenu un enfant de Dieu. Et cela a été accompli seulement grâce aux entrailles de miséricorde de Dieu. C'est une manière sous laquelle Pierre, quand on regarde, qu'on prend du recul, Il expose Dieu dans ce qu'il a fait, dans son choix souverain, dans son acte souverain de salut, dans ses entrailles souveraines, je pourrais dire, de miséricorde. Qu'il soit loué. Quelle grâce. Nous pouvons louer, adorer ce Dieu qui nous a ainsi aimés. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous êtes ici ce matin, eh bien, vous pouvez venir à lui. La Bible dit que ceux qui placent en lui leur confiance ne seront point confus. Mais si vous refusez de croire en Jésus-Christ, vous allez vous heurter contre cette pierre. Et elle va vous faire trébucher. Et donc, il n'y a pas d'alternative. La seule chose que l'on ait à faire, c'est de venir à lui, de croire en lui. L'honneur est pour ceux qui croient en lui. Celui qui croit, verset 6, en elle, dans la pierre, en Jésus-Christ, en lui, ne sera point confus. Il pourra devenir une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Il pourra annoncer les vertus de Dieu, parce qu'il sera été effectivement l'objet de cette transformation radicale qui fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Et il aura été l'objet de la miséricorde de Dieu. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole qui est la vérité. Nous te demandons par ton esprit, de faire pénétrer encore plus ces vérités au-dedans de nous, pour la gloire de ton nom. Amen.